toi des ahaïs.
Il est 7h.
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU, sur RFI.
Radio France Internationale, il est 7h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Martin Guez. Bonjour Martin.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
Les États-Unis toujours plus fracturés après la mort d'Alex Pretty.
Infirmier de 37 ans tué par balle lors d'une intervention de la police aux frontières. Cela s'est passé à Minneapolis dans le Minnesota quelques jours après le décès de Renee Good. Morte lors d'une opération de la police de l'immigration, une autre unité fédérale répondant à Washington. L'administration de Donald Trump est sous pression de l'opposition démocrate et même de son propre camp. Les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton appellent à un sursaut. Nous serons en direct de Minneapolis. Dès le début de ce journal.
À la une également ce matin, Goma, un an après.
Le 26 janvier 2025, les combats débutaient dans la grande ville de l'est de la RDC. Une bataille entre la FRDC et la FCM-23 qui débouchera quelques jours plus tard sur la prise de Goma par le groupe politico-militaire soutenu par le Rwanda. Un an plus tard, l'aéroport de la capitale du Nord Kivu est toujours fermé. Une catastrophe pour les humanitaires. Nous serons aussi dans ce journal au Proche-Orient, alors qu'Israël a annoncé la réouverture du point de passage de Rafah, sans toutefois en préciser la date. Mais également en Chine, où une enquête a été ouverte contre deux des plus hauts responsables militaires du pays, soupçonnés de corruption. En France, le Parti Socialiste affine sa stratégie avant les élections municipales qui auront lieu à la mi-mars. Et puis enfin, Azaproki est de retour. Le rappeur new-yorkais sort de 8 ans de silence avec Don't Be Dump, Ne Sois Pas Bête. C'est notre choix musical ce matin, aperçu avec Olivier Roger en fin d'édition.
Quelques jours après celui de Renee Good, les États-Unis découvrent le visage d'Alex Pretty, nouvelle victime de la police fédérale.
Deux citoyens américains de Minneapolis dans le Minnesota, deux symboles désormais des violences policières. La première est morte le 7 janvier lors d'une intervention d'ICE, la police de l'immigration. Le deuxième ce samedi, tué par balle par la police aux frontières. Les États-Unis sous tension et sous le coup de l'émotion. Plusieurs centaines de personnes ont hier bravé le froid polaire qui règne à Minneapolis pour rendre hommage à cet infirmier de 37 ans qui venait en aide aux anciens combattants. Minneapolis, on retrouve notre envoyé spécial Édouard Maille. Édouard, vous étiez hier auprès de ces citoyens qui ont rendu hommage à Alex Pretty, des habitants toujours sous le choc.
Oui, chez les habitants, c'est d'abord la colère. Colère face à ce qu'ils jugent comme une injustice. Certains parlent même d'une exécution sans aucune conséquence pour les agents qui ont tiré. Et puis c'est la peur que n'importe quelle personne puisse être tuée dans la rue comme Alex Pretty en filmant une opération d'arrestation de migrants. Mais l'appel au calme du gouverneur démocrate Tim Walz et des autorités locales qui s'opposent fermement aux politiques de Donald Trump semble avoir pris effet. Ce dimanche, une manifestation a été organisée et a rassemblé des milliers de personnes. Manifestation pacifique. Elle a eu lieu au même endroit qu'une autre manifestation deux jours plus tôt, vendredi. Il s'agissait alors de demander que la police de l'immigration quitte la ville. Les manifestants rendaient alors hommage à Renee Good, la femme tuée en janvier, début janvier, par un agent de l'ICE.
Et Edouard, de plus en plus d'analyses des vidéos remettent sérieusement en cause la version du gouvernement Trump, selon laquelle les agents fédéraux s'étaient juste défendus face à un individu armé. Quelles sont les réactions chez les élus conservateurs ?
Alors, chez une petite partie des élus conservateurs, les critiques se font de plus en plus entendre, et aussi au sein d'autres organisations, à commencer par la NRA, le plus puissant lobby pour les armes à feu. Chose rare, celle-ci a dénoncé dans un communiqué la position du gouvernement, qui estimait qu'aborder un agent avec une arme sur lui était une provocation, alors que Alex Pretty portait une arme à sa ceinture en toute légalité. Le lobby a dit qu'il ne fallait pas diaboliser des citoyens qui respectaient la loi. Et puis au Congrès, plusieurs élus républicains ont demandé une enquête pour rétablir la vérité, une enquête impartiale. Et l'ancien allié de Donald Trump, désormais critique du président, Marjorie Taylor Greene, a dit sur le réseau X que tout en voulant expulser les migrants en situation irrégulière, que porter une arme n'est pas la même chose que la brandir. Donc le gouvernement de Trump se retrouve désormais sur la défensive, lui qui se targue souvent d'être le défenseur des principes de l'Amérique, la liberté d'expression et le port d'armes. Et dans une interview au Wall Street Journal publiée ce dimanche, Donald Trump n'a pas pris position sur si les agents avaient bien fait ou non, et il a affirmé que les agents de Nicola, ils finiront bien par quitter Minneapolis, une position nettement plus nuancée que celle répétée par son gouvernement hier.
Merci beaucoup Edouard Maillet en direct de Minneapolis sur RFI.
Et les États-Unis par ailleurs face à l'une des pires vagues de froid des dernières décennies.
Les températures qui chutent jusqu'à moins 45 degrés, plus d'un million de foyers sont privés d'électricité. Des températures glaciales qui ont fait au moins 5 victimes retrouvées mortes dans les rues de New York. Les autorités sanitaires de Louisiane ont également annoncé que 2 hommes étaient décédés d'une hypothermie en lien avec la tempête.
Il y a un an s'engageait la bataille de Goma.
Goma, la plus grande ville de l'est de la RDC, capitale du Nord Kivu, où les combats entre la FARDC et la FCM-23 ont débuté le 26 janvier 2025. Goma tombera d'ailleurs quelques jours plus tard aux mains du groupe politico-militaire soutenu par le Rwanda. Un conflit dont le bilan n'a jamais été officiellement estimé. L'ONU évoque le chiffre de 2900 morts. Un conflit qui a aussi provoqué d'immenses mouvements de population et qui a eu pour conséquence la fermeture de l'aéroport de la ville. Un an après, il est toujours impossible aux avions de se poser sur le tarmac de Goma, ce qui met en grande difficulté les humanitaires sur place, comme nous l'explique Jérôme Kouachi, chef des urgences pour l'UNICEF en RDC.
L'aéroport a été fermé dû au combat et aux engins explosifs qui ont été aussi sur la piste. Cet aéroport de Goma, il était important car c'était le point d'entrée principal de l'assistance humanitaire, que ce soit via les avions cargo ou les avions passagers, charter, pour ramener les équipes militaires. Donc ça a produit un vrai ralentissement de l'assistance humanitaire, les approvisionnements notamment logistiques, avec un déroutement qui était nécessaire en passant par Beni, puis après par des voies routières assez compliquées entre Beni et Goma aujourd'hui. Il y a plus une réduction de la présence humanitaire car le routing entre Kinshasa et Goma n'était plus direct et se faisait via des vols internationaux. Donc l'impact, il est assez clair sur une réduction de la présence humanitaire et aussi sur une augmentation des coûts de l'assistance humanitaire car des coûts logistiques multipliés. En lien avec la crise financière que vit aussi le système humanitaire aujourd'hui. Donc la conséquence est assez difficile aujourd'hui à vivre pour tous les acteurs.
Des propos recueillis pour RFI par Paulina Zidi. Goma, un an après, on y revient tout au long de la journée sur RFI avec nos invités, nos chroniques, nos très nombreux témoignages compilés en une de notre site internet. Rendez-vous quand vous le souhaitez sur RFI.fr.
8h07 à Tel Aviv. Les émissaires de Donald Trump étaient ce dimanche en Israël.
Pour tenter de lancer la phase 2 du plan Trump. Mais avant cela, le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre dernier prévoyait la restitution de la dernière dépouille d'otages détenue par le Hamas et la réouverture du point de passage de Rafah situé entre la bande de Gaza et l'Égypte. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Le cabinet de sécurité israélien s'est réuni tard hier soir sous une pression américaine maximale et a donc décidé de rouvrir ce poste frontière clé.
Oui, mais c'est désormais acté. Le passage de Rafah va donc rouvrir. Le cabinet de sécurité a tranché cette nuit, cédant à la pression intense de l'administration Trump. Malgré la colère des ministres d'extrême droite, Ben-Gvir et Smotrich, qui dénoncent une erreur historique, la décision est donc prise. La frontière s'ouvrira dans quelques jours, pas plus de précision. Ce sera une ouverture limitée, uniquement pour les piétons, pas de marchandises et sous surveillance israélienne stricte. Mais le véritable tournant est moral. Israël a renoncé à son ultime levier de pression. Si les forces spéciales fouillent en ce moment même un cimetière de Gaza avec un optimisme prudent pour retrouver Rangvili, le verdict politique, lui, est sans appel. Dès que cette fouille sera jugée épuisée, avec ou sans le corps du dernier otage, la barrière se lèvera. En fin de séance, le regard s'est tourné vers l'Est. Le cabinet a validé les préparatifs d'urgence pour l'arrière-pays, signe qu'Israël prend toujours très au sérieux l'hypothèse d'une frappe américaine imminente contre l'Iran.
Merci Michel Paul, en direct de Jérusalem sur RFI. L'actualité au Proche-Orient, c'est aussi le Liban, où 2 personnes sont mortes hier lors de frappes israéliennes dans le sud du pays, et ce malgré la trêve conclue en novembre 2024. Des frappes visant des infrastructures du Hezbollah, selon l'armée de l'État hébreu. Le Premier ministre libanais Nawaf Salam sera lui l'invité exceptionnel d'Arnaud Pontus. Rendez-vous juste après ce journal.
En Chine, 2 des plus hauts responsables de l'armée rattrapés par la patrouille.
Enquête ouverte officiellement pour grave violation de la discipline, officieusement pour corruption. Le journal officiel de l'armée populaire de libération vient de justifier publiquement cette purge et accuse gravement les 2 hauts responsables. Bonjour Claire Bordost.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante à Pékin. Non seulement les 2 militaires sont accusés de corruption, mais aussi de porter atteinte directe au chef de l'État.
Oui, avec un éditorial d'une rare violence, le PLA Daily, le quotidien officiel de l'Armée populaire de libération, va bien au-delà de l'annonce d'enquête. Il impose une lecture politique de l'affaire et transforme une procédure disciplinaire en démonstration idéologique. Le journal accuse Zhang Yuxia et Liu Zhenli non seulement de corruption, vous le disiez, mais surtout d'avoir porté atteinte au système de commandement de la commission militaire centrale, c'est-à-dire à l'autorité directe de Xi Jinping sur l'armée. Et en Chine, c'est l'un des reproches les plus graves. Il touche au principe fondamental selon lequel le parti commande aux armes et jamais l'inverse. Et cette prise de parole en soi est un signal. Le PLA Daily dépend directement de la commission militaire centrale. Avec un tel éditorial, l'institution militaire entérine publiquement la chute de ses deux dirigeants et encadre le récit politique. Et le message adressé aux officiers, il est très clair. À l'approche du congrès du parti et à l'horizon du centenaire de l'armée, l'enjeu n'est pas seulement d'éradiquer la corruption, mais bel et bien de verrouiller la loyauté politique, quitte à accepter un choc au sommet de l'armée pour réaffirmer la mainmise du pouvoir sur l'institution, Martin.
Merci beaucoup, Cléa Broders, en direct de Pékin sur RFI. L'actualité en Asie, c'est aussi ce naufrage d'un ferry transportant plus de 350 personnes dans le sud des Philippines qui a fait au moins 15 morts ce matin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
En France, les élections municipales approchent à grands pas.
C'est dans un peu moins de deux mois. Il est grand temps de s'organiser. Aussi, le Parti Socialiste organise donc ce matin une grande conférence de presse. La formation de gauche doit présenter sa stratégie globale et tenter de faire refleurir ville par ville le parti à la rose. Victorien Villaume.
La pression est forte pour le PS. En 2020, les résultats des municipales, bien que moins bons qu'en 2014, avaient plutôt confirmé le statut du PS de grande force à gauche sur le plan local. Même si les écologistes leur avaient fait de l'ombre, le parti avait remporté 14 mairies dans des communes de plus de 100 000 habitants, dont des grandes métropoles. Les municipales ne sont pas une parenthèse, mais un moment politique décisif, reconnaît d'ailleurs le patron du PS, Olivier Faure. De bons scores permettraient en effet d'enclencher une dynamique en vue de la présidentielle. Pour y arriver, le PS a fait le choix de nouer des alliances, principalement avec le Parti communiste et les écologistes. Les Verts se rallient par exemple au PS dès le premier tour à Nantes, Rennes et Paris, où David Belliard et Yann Brossa ont rallié la candidature d'Emmanuel Grégoire. Le PS devra en revanche composer avec la pression venue de la France insoumise, qui présente cette année de nombreux candidats.
Explication signée Victorien Villaume, les élections municipales qui auront lieu en France le 15 et 22 mars prochain.
Enfin, Martin Aïssa Proki est de retour et il a beaucoup de choses à dire.
Et oui, 8 ans que le rappeur new-yorkais n'avait rien sorti, il revient nous dire « Don't be dumb, ne soyez pas bête » en bon français, c'est pas très gentil. Un gentil message donc, titre de son nouvel album. Exactement, un conseil et Aïssa Proki qui ne revient pas seul, Olivier Roger.
Peu d'artistes sont capables sur le même album de passer d'un rock pop à un rap expérimental, une fantasy ragtime ou encore un hommage au rap tendance gothique. Aïssa Proki y parvient avec élégance et efficacité sur les 17 pistes d'un album dense, inventif et déconcertant. Créer un univers est une chose, encore faut-il savoir le peupler correctement. Aïssa Proki a choisi un certain nombre d'élus, parmi lesquels la star du rap US, Dutchy, le virtuose Tyler, the Creator, ou encore le génial leader de Gorillaz, le britannique Damon Albarn. Tout ce monde se plie aux fantaisies du New-Yorkais natif de Harlem, qui alterne entre révolte et douceur, colère et joie, sur un album où sa vie de père de famille prend davantage de place que ses furies d'homme en colère, sage dans le fond et ludique dans sa forme. Pris entre sa carrière de mannequin, d'acteur, il a joué notamment pour Spike Lee, le père des trois enfants de Rihanna a mûri son projet durant 8 années, rassemblant ses influences, explorant le patrimoine musical américain, fuyant toujours la facilité.
Et on se quitte donc avec Aïssa Proki et on se revoit à Zap, Mario Casanov.
Oh, c'est beau, merci beaucoup Martin Gazier. On reparlera aussi du nouvel album d'Aïssa Proki dans notre choix musical. 7h13 à Paris, à suivre notre grand invité international sur RFI, le Premier ministre libanais Nawaf Salam. Il répond à Arnaud Pontus dans 5 minutes. Le temps pour nous de faire un point sur l'actualité des sports. Avec vous, Antoine Grenier, du football, la Ligue 1, 19e journée. Grâce à Hendrick de Gala, les Lyonnais se baladent sur la pelouse du FC Metz.
Victoire 5-2 pour l'OL qui met encore une fois la pression sur Marseille au classement. Les Lyonnais ont surtout pu compter sur 3 buts inscrits par leur nouvelle pépite. Le jeune Brésilien Hendrick, arrivé cet été en prêt du Real Madrid. À 19 ans, il s'offre le premier triplé de sa carrière et fait déjà l'unanimité auprès de ses coéquipiers, à l'image du défenseur angolais Clinton Matta chez nos confrères de Ligue 1. Ligue 1 plus.
Il nous apporte énormément, c'est un joueur très explosif, un joueur qui a beaucoup de qualité. Et je pense aussi que voilà, on fait en sorte de le mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir nous sortir ce genre de prestations. On voulait absolument remporter ce match. On savait que c'était aussi un match très important pour pouvoir rester dans le podium. Voilà, deuxième mi-temps, je pense que on a un peu laissé un peu plus jouer l'adversaire, ou on leur a laissé un peu de l'espoir. Et puis il y a ce cinquième but que Hendrik met pour pouvoir tuer les espoirs. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un bon match, mais il y a des choses à gommer.
Lyon, 2 points derrière l'OM et 6 longueurs devant Lille, battu 4-1 par Strasbourg. 5e défaite consécutive, toute compétition confondue pour le LOSC. Dans le match de la peur, Nice dominante 4-1. Toulouse s'impose 2-0 à Brest et le Paris FC et Angers se neutralisent 0-0.
En Angleterre, Antoine, Manchester United s'offre le choc face à Arsenal.
Succès 3-2 des Mancuniens sur des Gunners que rien ne semblait pourtant inquiéter cette saison. Les Red Devils s'offrent une nouvelle victoire de prestige une semaine après avoir battu leurs voisins de Manchester City et surtout 2 semaines à peine après l'arrivée de Michael Carrick à la tête du club, l'entraîneur mancunien qui a d'ailleurs salué l'état d'esprit de ses joueurs.
C'est vrai que ces deux premiers matchs n'étaient pas les plus faciles, de la même manière que d'autres matchs compliqués arrivent. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'était aussi les meilleurs matchs à gagner en termes d'émotion et de confiance. Mes joueurs ont été fantastiques, comme je l'ai dit, en moins de 2 semaines ensemble, ils ont mis les choses en place et ont essayé de faire ce que nous avons demandé. Bien sûr, il y a encore des aspects que nous voulons approfondir et améliorer, mais ils ont fait un excellent travail pour remporter ces 2 matchs.
Et au classement, les Red Devils dépassent Chelsea, grimpent à la 4e place dans une 19e journée qui voit Aston Villa continuer de performer. Succès 2-0 sur Newcastle, victoire de Chelsea 3-1 face à Crystal Palace et de Nottingham 2-0 sur Brentford.
En tennis, enfin, un exploit et une chute. Le tableau féminin de l'Open d'Australie a réservé quelques surprises.
Et on commence par la mauvaise, l'élimination de la tenante du titre Madison Keys, l'américaine 9e mondiale sortie dès les 8e par sa compatriote Jessica Pegula 6-3-6-4. La finaliste de l'US Open 2024 affrontera une autre américaine, Amanda Anisimova, la 4e mondiale qualifiée pour son premier quart de finale à l'Open d'Australie en battant la chinoise Wang Qinyu 7-6-6-4. Chez les messieurs, ça passe pour l'italien Lorenzo Musetti qui domine Taylor Fritz en 3 manches 6-2-7-5-6-4.
Antoine Grenier pour le journal des sports.
RFI Matin.
Aujourd'hui l'économie avec Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Marion.
Ce matin on fête avec vous l'anniversaire de la télévision. Elle a tout juste 100 ans. Ça prendrait un peu de temps de refaire toute son histoire. On va plutôt parler de sa santé économique. Pas au beau fixe pour cette vieille dame. Stéphane, si la télévision a été un média dominant, aujourd'hui c'en est un parmi d'autres.
Exactement, car pendant longtemps l'économie de la télévision a reposé sur une mécanique simple, efficace. D'un côté des chaînes qui programment des contenus à heure fixe. De l'autre des millions de téléspectateurs réunis en même temps devant leur écran. Et au milieu, la publicité. Plus l'audience est large, plus les espaces vendus pour la pub sont chers. Les chaînes privées gagnent donc de l'argent. C'est ce modèle qui a fait la puissance financière de la télévision.
Oui, mais voilà, ce modèle qui a longtemps fonctionné et qui semblait solide s'est fissuré.
Et c'est un cas d'école finalement, Marion, hein, puisque la télé a perdu ce qui faisait sa force économique, la rareté. Et oui, aujourd'hui, l'offre de formats est infinie. Séries, vidéos, podcasts, réseaux sociaux, le temps d'attention, qui est la ressource essentielle au secteur, est devenu plus faible. Résultat, l'offre s'est diversifiée et la demande, elle s'est dispersée.
Donc on ne regarde plus la télé en tant que telle, Stéphane, on regarde les contenus.
Vous avez tout dit, la différence elle est là. Aujourd'hui on consulte quand on veut, où on veut, ce qu'on veut, sur notre téléphone, notre ordinateur, parfois même, ironie du sort, sur notre propre télévision. Et cette fragmentation a un impact économique majeur car une audience éclatée, c'est une publicité moins puissante et on l'a dit, hein, c'est le cœur du modèle économique du secteur. Alors de la pub, il y en a encore, mais elle rapporte moins. Et pendant ce temps-là, ce marché publicitaire s'est dirigé vers le numérique et les plateformes. Pour certaines marques, il est plus rentable de s'acheter un écran pub sur YouTube, Netflix ou Amazon Prime qu'à une heure de grande écoute sur TF1, CBS ou Sky News.
Alors vous évoquez YouTube, c'est le principal concurrent de la télévision.
Et oui, car la plateforme est devenue un géant de la consommation audiovisuelle. On y regarde des formats longs, des émissions, des mini-séries, parfois de l'info, du sport, exactement comme à la télé. YouTube capte donc à la fois le temps d'écran et le marché publicitaire. Hein, preuve de l'influence et de son importance, la prestigieuse cérémonie des Oscars sera à partir de 2029 exclusivement diffusée sur la plateforme. Ce choix est ainsi un bouleversement et surtout un révélateur du poids de la télévision classique à notre époque.
Stéphane, comment la télévision peut faire face? On entend souvent qu'elle meurt à petit feu.
Et oui Marion, puisque la télé c'est un média de masse et si la masse ne suit plus, ça complique les choses, on l'a compris. Surtout sur la publicité qu'il est aussi, alors que sur les plateformes précisément, cette publicité elle peut être ciblée en fonction des profils des utilisateurs. Alors pour s'en sortir, les chaînes créent elles aussi leur plateforme, elles proposent des contenus inédits en plus de leur programme. Car 100 ans après la première télévision, celle d'aujourd'hui est hybride. Elle se réinvente grâce à un mélange de ce que l'on connaît aujourd'hui, avec plus de publicités ciblées, plus d'abonnements, de partenariats, de streaming. Bref, Marion, la télé n'est pas morte, elle s'adapte à son époque, non sans peine.
Stéphane Genest pour la chronique Aujourd'hui l'économie. RFI, 7h19 à Paris, notre grand invité international ce lundi. Arnaud Pontus, vous recevez Nawaf Salam, le Premier ministre du Liban.
Bonjour Monsieur le Premier ministre.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous êtes à Paris après être passé par Davos au Forum économique mondial. Quel est votre message aux Européens?
Bon, écoutez, c'est pas un message, mais un double message. Un, j'ai tenu à dire à tous nos partenaires européens que les réformes auxquelles on s'était engagé sont aujourd'hui bien parties. Il ne s'agit pas seulement des réformes financières où l'ensemble de cette réforme dans le secteur financier et bancaire devrait pouvoir nous emmener à conclure un programme avec le Fonds monétaire international, ce qui est notre objectif. Bon, donc ça c'est le premier message. Le train des réformes a quitté la gare, il s'approche de son objectif. Deuxième message, c'est que aussi en ce qui concerne le monopole des armes, on a maintenant achevé la première partie du plan que l'armée nous avait soumis, qui est le fait aujourd'hui que l'armée a pu asseoir l'autorité de l'État dans l'ensemble du sud de Lituanie. Et bon, c'est la première fois depuis 1969 que l'État a un contrôle opérationnel dans tout le sens du terme
du sud du Liban, de toute cette zone frontalière avec Israël.
Oui, un peu plus que frontalière. Oui. Écoutez, c'est entre le
30 kilomètres, une bande de 30 kilomètres jusqu'au fleuve Litanie. Vous considérez que ce moment est historique?
Certainement. C'est un moment historique. Écoutez, c'est la première fois en plus de 50 ans que l'État a contrôle complet sur le sud de Lituanie et dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Quand même, il faut faire attention. Quand je dis qu'on contrôle, il ne faut pas oublier qu'il y a malheureusement encore 5 points sous occupation
israélienne. Contrôle n'est pas encore total.
Non, le contrôle n'est pas total. Il est total à l'exclusion de ces points-là.
Le désarmement du Hezbollah, c'est bien évidemment la grande affaire, le grand défi auquel vous êtes confronté. Donc, la première phase du plan de désarmement est maintenant achevée, telle que l'a annoncé l'armée. On attend la deuxième phase à présent, mais le Hezbollah refuse d'aller plus loin. Est-ce que vous n'allez pas au-devant d'un blocage?
Bon, écoutez, moi j'aime toujours rappeler que le Hezbollah, par le vote de confiance, il a voté.
Le vote de confiance au gouvernement.
Au gouvernement, alors que la déclaration ministérielle donc vraiment était claire.
Donc vous nous dites que même si le Hezbollah marque ses réticences par rapport à la suite du plan, il est bien dans son intention d'accepter la suite du désarmement?
Bon, écoutez, je ne veux pas lire dans les intentions, moi, des acteurs politiques.
De votre point de vue, monsieur le Premier ministre.
Le Hezbollah s'était engagé.
Oui. Et que donc il s'agit de respecter cet engagement aujourd'hui.
Le Hezbollah doit respecter ses engagements.
Êtes-vous optimiste quant au respect de ses engagements? Pensez-vous que c'est authentiquement faisable?
Écoutez, je suis optimiste sur l'avenir du pays, sinon je n'aurais pas été là où je suis.
Mercredi dernier, le Liban a encore subi de nouvelles frappes israéliennes. Ces frappes, elles sont quasi quotidiennes. Que peut faire le Liban face à ces violations répétées du cessez-le-feu qui avait été conclu en novembre 2024? Tout ça, évidemment, pèse sur la suite du processus qu'on évoque à l'instant.
Certainement, vous avez raison. Malheureusement, ces violations et du cessez-le-feu et de la souveraineté libanaise sont quotidiennes. Et elles s'ajoutent au fait de l'occupation qui continue des cinq points par Israël, où ils maintiennent une présence armée dans le sud du Liban. Et ce qu'on est en train de faire, on continue à le faire, continue à mobiliser nos partenaires arabes et internationaux pour faire pression sur Israël pour arrêter ces violations et se retirer de l'ensemble du territoire. Donc on a fait un choix qui est le choix politico-diplomatique.
Diplomatique, voilà. Oui. Est-ce que vous êtes surpris malgré tout du peu de réactions que cela suscite ?
Il nous faut vraiment des actions, une vraie pression sur Israël pour respecter ses engagements. De notre côté, on a respecté nos engagements. On continuera à les respecter. On ne va pas faire marche arrière. Tout au contraire, on va continuer à aller de l'avant.
En vous recevant vendredi à l'Élysée, le président français Emmanuel Macron a dit « La France est aux côtés du Liban ». Qu'avez-vous obtenu de la France à cette occasion ?
Écoutez, on a déjà beaucoup obtenu de la France. Mmh. La France a toujours été aux côtés du Liban, a soutenu le Liban dans un nombre de dossiers. Maintenant, ce qu'on attend dans les mois à venir de la France va accueillir une conférence de soutien aux forces armées libanaises.
Ce sera le 5 mars.
Exactement, la date a été fixée au 5 mars.
Qu'attendez-vous de cette conférence ? Qui se porte sur le soutien aux forces armées.
Les forces armées libanaises, pour pouvoir accomplir leur tâche dans le reste du pays, la tâche, le monopole des armes, d'asseoir l'autorité de l'État, de remplacer aussi la force onusienne, la FINUL.
La FINUL, dont le mandat s'arrête à la fin de l'année.
Voilà, viendra à terme à la fin de 2026. Bon, l'armée aura besoin de recruter du personnel.
Oui.
Là, il faudra entraîner les nouvelles recrues. Il faudra armer l'armée. Il faudra aussi essayer de hausser les salaires des forces armées.
Tout ça, c'est beaucoup d'argent, monsieur le Premier ministre.
Oui, c'est pas seulement de l'argent. Oui. Il y a une partie de l'argent. Il y a du matériel dont l'armée aura besoin, dont certains peut-être existent dans des dépôts de nombre de pays amis. C'est pas seulement des sous. Il y a certainement il faudra des sous, mais il y a aussi d'assistance technique, entraînement et autres, et logistique. Donc on s'attend que nos amis et nos partenaires se mobilisent pour assurer les moyens aux forces armées libanaises d'accomplir cette tâche.
Vous évoquiez la FINUL il y a un instant. La FINUL, à peu près 10 000 hommes de la force intérimaire des Nations Unies pour le Liban. Une fois que la FINUL n'est plus là, que faut-il ? Est-ce que c'est l'armée libanaise, la future armée libanaise renforcée, qui prend le relais, ou est-ce qu'il faut une autre force internationale ?
Écoutez, les deux. Il faudra certainement l'armée, mais il faudra une présence internationale. Donc, et notre préférence est que cette présence soit une présence onusienne, ou sous l'égide des Nations Unies, nul autre
que les Nations Unies ne peuvent le faire.
Les Nations Unies peuvent le faire.
Nawaf Salam, on parlait tout à l'heure du Hezbollah. On sait que le Hezbollah est lié à l'Iran. Est-ce que les événements de ces dernières semaines à Téhéran et sur le reste du territoire iranien peuvent avoir des conséquences sur le processus qui est en cours au Liban ?
Bon, écoutez, que ce soit les événements en Iran sur lesquels j'ai refusé d'apporter un commentaire quelconque, parce que nous voulons un reset de nos relations basées sur la non-gérance dans les affaires des autres, donc je ne commenterai pas les événements en Iran, mais cela ne veut pas dire que je ne me rends pas compte, certainement, je sais que
vous les suivez, bien évidemment.
Je suis de près, je sais qu'elles pourraient avoir des répercussions sur le Liban, comme les changements en Syrie, ou l'avenir du processus à Gaza, ou sur le dossier israélo-palestinien, auront aussi des incidences sur le Liban. C'est peut-être le pays de la région qui est le plus influencé par les développements de la région et ce qui se passe autour de lui.
Mais ça n'est pas un motif d'inquiétude particulier pour vous ?
Écoutez, on fait ce qu'on peut pour renforcer l'État, libanais, les institutions gouvernementales libanaises pour essayer de protéger le Liban contre les développements qui pourraient aller à contresens dans la région.
Vous nous dites que l'État libanais est de retour aujourd'hui.
Écoutez, je ne peux pas encore dire que l'État, avec un majuscule, est de retour, mais certainement on est en train d'œuvrer pour que l'État libanais, maintenant, avec majuscule, se rétablisse entièrement, encore une fois, avec un autre majuscule.
Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions.
Bon, écoutez, c'est moi qui vous remercie.
Nawaf Salam, Premier ministre du Liban, avec Arnaud Pontus. Cet entretien avec notre grand invité international est à retrouver sur notre site www.rfi.fr ou bien sur notre application Pure Radio. Dans 10 minutes, on écoutera notre grand invité Afrique, Zobel Béhalal, de l'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational. On parlera avec lui de la bataille de Goma, c'était il y a un an. À suivre sur RFI, un nouveau journal.
RFI à Malabo-Ville, 88 FM. Malabo-Volcan, 97.5 FM.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
mieux comprendre l'arthrose pour mieux la traiter.
Demain,
les vertiges, un trouble de l'équilibre qui peut gâcher la vie.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou après.